vous écoutez Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire. Bonjour, vous êtes bien sur Radio B 90 FM, la radio des bonnes ondes, avec Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire, celle du mois de juin 2025. Et j'ai vraiment là beaucoup de chance car j'ai des grands livres, voilà. Le premier, c'est L'Océan, vous connaissez L'Océan, mais Source de vie, et c'est de Maude Fontenoy, aux éditions L'Observatoire. Et je remercie Gilles Paris parce que je l'ai pu le recevoir grâce à lui. C'est vraiment un ouvrage très très important de Maude Fontenoy, qui est une grande navigatrice et qui s'était fait reconnaître il y a longtemps pour les plus anciens. Elle avait traversé l'Atlantique à la rame, une rame aménagée bien sûr, hein, pour pouvoir supporter, mais elle avait réussi cet exploit. Depuis, eh bien, elle a fondé une fondation. Et depuis 20 ans, elle fait toutes les mers, voilà. Donc c'est vraiment quelqu'un de très très bien. Cet ouvrage, L'Océan, source de vie, est le fruit d'une longue enquête et d'une importance capitale. Maude Fontenoy a, dit-elle, la chance d'écrire sur la vie océanique depuis plus de 20 ans. Et je n'avais pas encore abordé l'importance, pour ne pas dire le rôle essentiel, de notre mère nourricière. Elle a en effet toujours été l'un des garde-mangers favoris de l'homme. Pendant des millénaires, ce dernier s'est contenté modestement d'y prélever sa part. Mais depuis l'ère moderne, une portion de l'humanité est devenue trop gourmande. C'est un trésor inestimable, aussi fragile que puissant, et la mer tire le signal d'alarme. Asphyxiée qu'elle est aujourd'hui par la surpêche, la pollution et l'acidification qui menacent le fonctionnement de ses écosystèmes et de sa biodiversité. Voilà pourquoi ce livre est vraiment très important. On l'aura compris, sans la vie océanique, il n'y a pas d'avenir. Mais paradoxalement, les pays riches investissent plus dans le spatial que dans la recherche océanique. On connaît mieux la surface de la Lune que la profondeur des océans. En résumé, nous habitons dans le plus beau des musées et nous sommes pourtant, il faut l'avouer, le pire des conservateurs. La gestion prudente de la ressource vitale est pourtant un élément clé pour un avenir durable. L'urgence est donc de prendre de la hauteur face au vacarme du monde, de choisir ses combats et de s'y tenir. L'océan est un géant aux pieds d'argile. Il souffre en silence. Mais la marmite est en train de bouillir avec le réchauffement des eaux, l'urbanisation excessive, l'acidification, la pollution par les fleuves, les eaux usées, les déversements de pétrole, les métaux lourds, les pesticides et l'invasion des plastiques, notamment les nanoparticules qui nuisent à la santé et donc à notre santé. Pour enrayer ces tendances néfastes, face à l'eutrophisation et l'anoxie, c'est-à-dire que les océans manquent d'oxygène, il est donc crucial de mener une action mondiale rapide et coordonnée. Il faut pour cela accroître le financement des sciences océaniques, intensifier les efforts de conservation afin de sauvegarder le plus grand écosystème de la planète, nos océans, et favoriser la pêche artisanale pour les peuples qui en vivent. L'idée avec ce livre n'est pas de pointer du doigt ce qui ne va pas, même si elle le fait bien, et je ne peux pas tout vous dévoiler, mais elle le fait bien dans ce livre, mais de nous rassembler pour porter les couleurs moirées de l'océan et de prendre des mesures efficaces pour respecter le potager du monde. Le potager du monde. Le défi est immense et les désordres qui touchent notre Grand Bleu, elle a d'ailleurs réalisé le livre Grand Bleu avec le grand photographe, nos Grands Bleus ne touchent notre Grand Bleu, le désordre qui touche définitivement les désordres sont colossaux, mais ils sont aussi à la hauteur de solutions qui existent. Zones marines protégées, innovation technologique, traités internationaux ou respectés, gestion quotidienne, gestes quotidiens, où chacun doit prendre sa part. La mer est tout, disait le capitaine Nemo, comme il avait raison. Ce livre, cet ouvrage, est une déclaration d'amour passionné à l'océan, notre source de vie, nous clame avec maestria Maud Fontenoy, qui, je le répète, est une grande navigatrice, militante écologique, mère de 5 enfants. Maud Fontenoy parcourt les océans depuis plus de 20 ans, notamment grâce à sa fondation. Voilà pour ce grand livre. Après, s'ensuit des romans exotiques avec des personnages atypiques qui mènent l'enquête. Ainsi, ce premier roman, Le Livre des Prodiges, de Olivier Ciechelski, qui vient de paraître au Rouergue Noir. Il y a plusieurs surprises qui se présentent dans ce roman, de cette aventure singulière. Tout d'abord le titre, le livre des prodiges. Un prodige, c'est peut-être un phénomène magique ou surnaturel. Puis Nora, qui est le personnage central, qui a été reçue première au concours d'officier de police judiciaire. Pourtant, un an plus tard, elle est toujours simple patrouilleuse avec deux collègues, un chef plus âgé et un jeune William qui sera amoureux d'elle. D'ailleurs, au commissariat, elle n'est ni comprise ni acceptée. Peut-être à cause de la couleur de sa peau et de ses tresses brunes. Sur la jaquette du livre, on voit bien ce personnage atypique. Mais surtout, certains collègues n'hésitent pas à chahuter les convictions de cette croyante fervente au Christ en croix. Autre surprise dans ce service policier qui d'habitude n'en parle pas. Et une nuit, alors qu'elle fait une ronde avec le vieux Chabri, donc le chef, qui a grandi ici même, sur la presqu'île de Gennevilliers, voilà. On est à Gennevilliers, dans les bidonvilles dont les zones portuaires ont écrasé la mémoire. Et le timide William, tout juste arrivé de sa province. L'équipage découvre les victimes dans un conteneur contenant des cadavres. De ce qui est peut-être un accident, plus sûrement un crime. Des personnes, des femmes qui ont été déshydratées, qui sont mortes de déshydratation, convaincues que cette affaire est la sienne, Nora s'affranchit de l'autorité de ses chefs, qui ne sont pas des innocents, comme on pourra le voir par la suite dans ce roman. Il y a du suspense. Donc elle va mener sa propre enquête, hors de tout cadre légal, mais galvanisée par une nécessité. Voilà, il y a cette nécessité, ce service qui la dépasse. Elle entraîne vers le bateau. Elle tombera à l'eau et sera repêchée par une femme qui était sur le bateau marchant avec une béquille et qui deviendra son témoin. Aïda, elle qui la sauva de la noyade, mais elle fut mordue par un serpent sous l'eau. Voilà, autre prodige. Et l'on découvre une malédiction venue d'Afrique avec le jugeux et le jugement que Nora va rencontrer. Et puis, il y a donc le dieu serpent qui, soi-disant, protège les femmes. Ben, on verra comment. Donc, autre surprise, et aussi donc dans ce roman, un trafic de femmes pour la prostitution. Elle est tenace, Nora. Même si certaines choses en mouvement sont difficiles à comprendre et à analyser, dans ce roman hypnotique, Olivier Ciechielski, l'auteur de ce roman, Olivier Ciechielski, met en scène les habitants qui margent des villes, mènent des existences dangereuses et secrètes, approchant des puissances insoupçonnées, déchaînant parfois des forces qui tiennent du prodige, malgré le mal qui est bien présent, qui existe bien dans ce livre et dans le monde. Comme avec Maud Fontenoy, on a parlé aussi de la nature qui se déchaîne avec des inondations voraces à la clé. Je présente Noir comme l'orage de Sonja Delsongle, une grande romancière, et c'est en pocket, donc ça vous permet de l'acheter peut-être plus facilement. Au lendemain d'une nuit d'orage sur l'île de Ré, des touristes font une macabre découverte. Attachés à des pieux métalliques, plantés dans le sable face à l'océan, donc on retrouve l'océan, sept corps sont retrouvés foudroyés, semble-t-il, par les éclairs. Sur les traces de ce tueur, dont l'arme n'est autre que la foudre, et c'est vrai qu'il y a des moments où la foudre est très importante, le capitaine Max Fontaine, celui-ci, ne se doute pas de la douloureuse épreuve personnelle qu'il s'apprête à traverser, ni de la solitude, de l'impuissance et de la rage qui vont l'habiter durant cette enquête, cette aventure, car de nombreux obstacles se dresseront sur sa route avant qu'il ne puisse accéder à la vérité. Je puis vous garantir un suspense diabolique et un final explosif. Un thriller marqué dans un tonnerre de vent et de pluie par des personnages cabossés. Oui, ils sont bien cabossés, mais haut en couleur. Le quatrième livre est aussi très important. Merci aux éditions Phébus. Ça s'intitule « Les huit vies d'une mangeuse de terre ». C'est de Marinée Lee. Marinée Lee est née et a grandi en Corée du Sud. Voilà. Dans ce grand livre, on va parler de la Corée, de la guerre en Corée. Les huit vies d'une mangeuse de terre de Miranilé. Donc Miranilé est née et a grandi en Corée du Sud. Elle vit aujourd'hui à Hong Kong. Ce livre est son premier roman qui s'inspire de la vie de sa grande-tante qui a réussi, comme son personnage, à fuir à la Corée du Nord. Et c'est tout à fait passionnant, ce jeu de miroir. C'est le portrait virtuose et déstructuré d'une anti-héroïne secouée par la grande histoire que l'on retrouve dans ce récit et celui d'un pays déchiré qui est la Corée, un pays déchiré. Entre le Nord et le Sud, et puis avec des voisins comme la Chine et le Japon. Dire trois mots pour résumer son existence. C'est l'invitation d'une femme qui veut écrire des nécrologies des résidents du Soleil couchant, une maison de retraite sud-coréenne. C'est une femme divorcée qui veut être utile et elle voit des personnes dans cette maison de retraite et elle a envie avant qu'il ne soit trop tard, qu'ils racontent leur existence en trois points. Mais à presque 100 ans, celle qui s'appelle Monk Miran, c'est elle l'héroïne de cette aventure, Monk Miran. Elle pensait emporter ses secrets nombreux dans sa tombe. Mais cette femme étrangère lui offre l'occasion de faire enfin la paix avec son passé. Et trois mots ne lui suffisent cependant pas, et elle en choisit sept. Même si dans ce titre, il y a huit vies d'une mangeuse de terre, parce que c'est elle la mangeuse de terre, elle a pris goût à cette terre qu'elle mangeait. Donc, elle choisit sept, non pas trois mots, mais sept mots. Et dans ces mots, il y a esclave, reine de l'évasion, meurtrière, oui, elle sera meurtrière de trois hommes, terroriste, espionne, amante et mère. Donc il y aura bien une huitième vie, et vous le découvrirez dans ce livre, à la fin de ce livre. Car ce sont autant de vies qu'elle a vécues, autant d'identité qu'elle a dû endosser pour survivre durant cette époque pleine de tumultes. Il y avait deux guerres à la fin de la Seconde Guerre mondiale et puis la guerre de Corée. Cette facette d'un destin improbable qui se décline sur près d'un siècle au rythme de l'histoire mouvementée de la Corée, que l'on redécouvre parfois avec horreur. Alors, est-ce que ce sont des affabulations d'une mythomane hors pair ou récit véridique d'une usurpatrice qu'a choisi plusieurs noms, et prise de liberté. Une seule chose est sûre, avec son héroïne insaisissable, mangeuse de terre, affublée de mille noms, Mireille Lee, nous offre un appel sincère au vivre, dans toute sa complexité, est le portrait virtuose d'un pays déchiré entre la Chine et le Japon. Et puisque j'ai cité le Japon, qui a fait bien des malheurs à Monk Miran et à d'autres jeunes femmes, je vous propose une pause paisible avec une pure merveille, Ajizai de Aki Shimazaki, qui vient de paraître chez Actes Sud. Cette romancière née au Japon vit à Montréal depuis 1991. Son personnage est un jeune homme qui s'appelle Shota, un jeune étudiant en littérature qui vit à Kamakura. En train, il faut environ une heure pour aller de Kamakura à Tokyo, où se trouve l'université à laquelle il accède, ce jeune homme. Et il a le projet de devenir écrivain. Grâce à sa famille, son père, sa mère qui le soutient, son grand frère, sa sœur et son mari, qui tiennent un grand magasin, il lui paye ses études. Et un dimanche après-midi, il visite le temple d'Ajizai, un lieu magnifique que nous découvrons, moi j'avoue que je ne le connaissais pas, en raison de son jardin au milieu d'hortensias. Voilà. On parle des cerisiers en fleurs, mais de milliers d'hortensias. Il flâne parmi les fleurs bleues, en réfléchissant au roman qu'il vient de commencer d'écrire, dont le thème est celui d'une jeune veuve dans la quarantaine qui enseigne le koto à des femmes. Le koto est une sitar japonaise à 13 cordes. Un jour arrive un jeune homme qui désire devenir son disciple. Voilà. Il a commencé, mais voilà, il est un peu en manque d'inspiration pour la suite. Malheureusement, lorsqu'il apprend que sa famille se heurte à des difficultés financières importantes, ils vont même faire faillite et donc vendre le magasin face à la concurrence des grandes surfaces qui se trouvent aussi au Japon. Shota doit donc chercher une solution pour subvenir seul à ses besoins. Alors qu'il se résout à cumuler les emplois professeurs à quelques lycéens ou autres, se présente à lui, grâce à des amis, la chance inespérée d'occuper une dépendance de la maison de campagne d'un couple marié. Lui est un grand médecin, elle est professeure de musique, ils ont un fils. Et c'est là qu'il rencontre Madame Oda, Sumiko Oda, la mère de Kazuya, et qui deviendra dans son livre la belle dame de Agisaille. Voilà, dans cette maison de campagne, il y a un piano, bel instrument, et il entend de la musique. Il reconnaît la ballade opus 6, numéro 4, de Clara Schumann, que sa professeure de piano, il en a fait pendant 10 ans, mais après, avec ses études, il l'a abandonnée, avait joué en solo lors d'un concert. Donc, ça a été un très bon professeur de musique pour lui, et il a conservé des notions très précises. Donc, il aime cette ballade opus numéro 6 de Clara Schumann, qui avait 17 ans quand elle a composé cette musique. Ainsi, grâce à cette musicienne, parce que ce n'est pas un CD, il va découvrir que c'est Madame Oda, Sumiko Oda, qui joue, excellente musicienne, qui joue de cette musique. Donc, grâce à elle, à cette musique, il va retrouver le goût du piano. Ce sera aussi une rencontre digne des plus beaux romans d'amour que je vous invite à lire, à Gisèle, de Aki Shimazaki, qui vient de paraître chez Actes Sud. Et donc, dans son premier roman, cette belle femme deviendra la dame de Agisaï. Et on écoute la musique. J'ai choisi comme musique de Robert Schumann, parce qu'on évoque aussi Robert Schumann, Clara Schumann, et puis même Brahms, un morceau de Kreisleriana, voilà, qui est évoqué aussi dans ce roman, dans ce pur merveille, Agisaï de Aki Shimazaki.
Thank you.
très belle musique romantique jouée par Hélène Grimaud. Vous savez que j'adore Hélène Grimaud, la pianiste, voilà, de Robert Schumann, voilà, livre évoqué dans « À Gisei », parce que le récit « À Gisei », parce que Paraki et Shimazaki, parce qu'elle en parle, Madame Oda demande à Shota de réapprendre à jouer cette musique sublime. Voilà. Et alors, je vais passer aussi donc à un autre grand personnage, bon, moindre quand même. Je dois vous parler d'un autre grand romancier français qui aime voyager. Il s'appelle Franck Tillier, auteur d'une vingtaine de romans, dont le dernier s'appelle « À retardement », qui est paru au Fleuve Noir, sur l'histoire de la folie. Une fiction qui repose bien sur une étude très sérieuse, avec une unité pour malades difficiles, très difficiles à guérir et à soigner, de Chambly. Un nouveau patient est accueilli, délirant, sans papier, inapte à la garde à vue, parce que celui-ci a poussé sans raison un passager sur les rails, donc il est mort, et prétend fuir des vers. Et un personnage, un sombre personnage que l'on va découvrir peu à peu, qui s'appelle, qui se fait appeler le capitaine. Et puis on va à Seine-Saint-Denis, à une cinquantaine de kilomètres de là, où Charcot et son équipe découvre le corps d'un quinquagénaire sauvagement assassiné près de son lit, chez lui. Or, il n'y a aucune empreinte digitale, ni trace d'ADN, pas même les siennes. Donc, grand mystère. Et qui sont ces deux hommes? Quelles sont leurs histoires? Forte intrigue de Franck Tillier avec Éléonore, son personnage principal, qui est une psychologue. Et puis, psychologue expérimentée, voilà. Originaire de Bretagne, donc dans ce roman, on revient avec aussi, je vous l'ai dit, ce personnage troublant de capitaine, qui est-il, qui, soi-disant, ordonne des choses à des malades mentaux. Et donc, Éléonore, nom un peu original de cette psychologue expérimentée, est... On va revenir à la Bretagne, originaire de Bretagne, à la fin du livre, à la Bretagne. Donc, beaucoup de suspense. Mais je préfère vous présenter Norferville, qui est paru en pocket du même auteur, de Franck Tillier. Même si ce lieu est imaginaire, cela se passe entre Montréal et dans le Grand Nord québécois, qui sont des régions bien réelles, avec un temps épouvantable, de la neige et un froid polaire. Voilà. Donc, je rejoins un petit peu Maud Fontenoy. Voilà pourquoi j'ai choisi plutôt celui-là, ce roman-là. Avec la nature qui devient parfois terrible. Alors, dans ce roman, Norferville, il y a un détective et criminologue de Lyon, à Lyon, qui s'appelle Teddy Chaffran, et qui apprend soudainement que le corps de sa fille, qu'il n'avait pas eu de vue ou entendu depuis une dizaine d'années, a été découvert dans une ville minière isolée, car il y a des mines, des grandes mines, qui ont été délaissées, mais qui sont, semble-t-il, reparties. Donc, dans une ville minière isolée du Grand Nord québécois à Norferville. Sa fille Morgane a été sauvagement mutilée et abandonnée dans la neige, non loin d'une réserve d'autochtones. Donc on parle bien d'autochtones dans ce roman. Et sans réfléchir, alors qu'il était sur une sombre affaire, la sombre affaire Chalumeau, eh bien, Teddy plaque tout pour se rendre sur place, bien décidé à comprendre ce qui s'est passé. Là-bas, Léonie Rock, une flic métisse, on retrouve encore un personnage métisse, avec du sang inu, ce qui fait que les Canadiens blancs les traitent de maudite sauvagesse. Elle, Léonie Rock, une femme engagée, presque parfaite, est mise sur l'affaire. Enquêtrice principale avec d'autres flics, dont le sergent Lyota, un ancien Lyota, qu'elle avait connu dans sa jeunesse. Une sorte pour elle de tête de mule. Alors, Teddy Chaffran a du mal à le comprendre, mais elle est donc alors contrainte de renouer avec cet endroit, coupée de tout, où elle est née, où adolescente, trois inconnus l'ont violée, ainsi que sa meilleure amie. Qu'elle va retrouver, ainsi que les trois personnages, trois inconnus là, mais elle va parvenir à la fin du roman à savoir qui sont ces trois personnages. Un retour vers son enfer, alors que les températures frôlent les moins 20 degrés. Ensemble, Léonie et Teddy vont former une sorte de duo, de tandem. Deux êtres éprouvés par la vie vont se démener pour trouver des réponses. Malgré l'inhospitalité de la nature et des hommes. Un grand roman, donc, généreux, vraiment très grand art, et d'une humanité généreuse pour des peuples dits nomades, les autochtones, qui ont droit à la vie. Et dans l'univers hostile du Grand Nord, personne ne vous entend crier face aux prédateurs chasseurs impitoyables. Voilà, donc pour ce roman que je voulais vous présenter de Thierry de Franck Tillier, pardon, que je voulais vous présenter de Franck Tillier. Roman qui s'appelle Norferville et que vous pouvez lire en presse pocket. Voilà. Et qui va tout à fait dans la thématique de cette émission. Et maintenant, je dois vous parler d'un très grand livre avec un beau titre, Pour l'amour d'une mère. C'est de Joseph Yacoub et de Pascal Marguezian, qui l'interroge fort à propos de ses itinéraires, au pluriel, parce qu'il en a connu plusieurs, d'un assyro-chaldéen qui vient de paraître aux éditions du Cerf. Et je remercie Gilles Paris, car ce récit étonnant m'a beaucoup plu et m'engage vraiment. Voici l'histoire d'une vie, voici l'histoire d'un peuple, voici contre l'oppression et l'oubli, le combat d'une communauté assyro-chaldéenne pour la vérité. Celui des chrétiens d'Orient, on revient à ces chrétiens d'Orient qui n'ont pas toujours été compris par les chrétiens d'Occident, qui, entre martyrs et splendeur, s'attache à cultiver la mémoire des siècles et s'efforce de construire un avenir possible. J'ai lu dans un article qu'il y a peut-être bien un renouveau. Plongeant dans les profondeurs de la langue maternelle, qui est l'araméen, la langue du Christ, et dans son patrimoine religieux qui remonte à l'aube du christianisme en Orient. Joseph Yacoub, c'est lui le personnage principal, qui a d'ailleurs choisi Pour l'amour d'une mère parce que il voulait rendre hommage à sa mère, même si elle ne savait ni lire ni écrire. Donc Joseph Yacoub nous entraîne aux sources de la Syro-Mésopotamie natale et raconte l'histoire de sa communauté marquée par le génocide dont ses parents furent rescapés. Une histoire d'errance courant de l'Iran au Caucase, de la Géorgie à la Syrie et du Liban à la France, qui l'a conduit à s'interroger. Qui suis-je? Qui sommes-nous? Quelle place en diaspora, c'est-à-dire dans les pays de la dispersion, éclairant l'actualité brûlante à l'aune du terrible passé, voici une histoire bouleversante qui délivre le plus universel des messages. Professeur honoraire à l'Université catholique de Lyon, premier titulaire de la chaire UNESCO, Mémoire, culture au pluriel et interculturalité, Joseph Yacoub est l'auteur de nombreux ouvrages, dont Oublié de tous, les Assyro-Chaldéens du Caucase, coécrit avec son épouse Claire Yacoub, et qui s'en souviendra. Et puis, écrivain, voyageur et photographe, Pascal Marguezian est cofondateur de l'association Mésopotamia, auteur de plusieurs ouvrages, dont Chrétiens d'Orient, Ombre et Lumière et Mésopotamia, une aventure patrimoniale en Irak. Et il fait bien, ce Pascal Marguezian, parce qu'il lui pose de bonnes questions, il lui relance dans la découverte de ses itinéraires de Joseph Yacoub. Alors, quelques précisions sur l'un des itinéraires, parce que lorsque Joseph Yacoub arriva au Liban, autre terre de son enfance, le pays où s'est façonnée son éducation, sa culture et son ouverture au monde, le pays où il a rencontré la France du Levant et aussi la mer et son immensité, quelle joie il a ressentie. Il y fit au Liban ses études en français et en arabe, collège, lycée et université. C'est ainsi que la France devint son nouvel horizon. Il y arriva en train par Lyon, où il s'inscrivit en maîtrise de sociologie à l'université Lyon 2, ville qui était en ébullition avec le Parti communiste auquel il adhéra fébrilement. Il pensait que c'était le progrès. Mais plus tard, lorsqu'il alla à Moscou, il déchanta. Un doute et beaucoup de contradictions. Triste Moscou. L'Union soviétique a voulu changer l'homme et y mettre la dictature tout court. C'est ce qu'il a découvert. Le communiste, il faut l'avoir vécu comme André Gide, Yves Montand, Simone Signoret et d'autres pour ouvrir les yeux. C'est ainsi qu'aussi que débuta mon intérêt pour la question assyro-chaldéenne. J'avais ma foi, elle était toujours là, et j'ai retrouvé ma place dans cette étude de la question assyro-chaldéenne. C'est vrai que ce Joseph Yacoub est un personnage étonnant, parce qu'à Lyon, c'est Pascal Maguézian qui lui dit « Joseph, l'université catholique de Lyon est l'agora où tu as pu donner et recevoir. Tu y as enseigné environ 40 ans. Tu y as contribué à la création de l'Institut des droits de l'homme et de la chair UNESCO. Tu y as acquis et proposé un vaste champ de connaissances sur les minorités et les peuples autochtones. » Voilà, on reparle des peuples autochtones. Tes nombreuses publications en attestent, en dépit de son recentrage sur la question particulière assyro-chaldéenne, tu as toujours ouvert ton enseignement à l'universel. Voilà, enseigner l'universel et le particulier avec ces très belles phrases de Léopold Sédar Senghor. Nul n'a le droit d'effacer ma culture, car une communauté sans culture est un peuple sans être humain. Voilà, donc, il a rencontré à Lyon, en plus de son itinéraire identité assyro-chaldéenne, qui ne s'oppose pas à son enseignement académique universaliste. Il a rencontré à Lyon l'humanité de l'université catholique, avec l'Afrique dans sa diversité éthique, culturelle et linguistique, l'Amérique latine, l'Asie. J'y rencontrais des gens venus du monde entier Et quand je les écoutais, je pensais à cette phrase de Karl Marx. L'éducateur a besoin d'être éduqué. D'ailleurs, cela touchait mes étudiants lorsque je prononçais cette phrase en cours. C'était mon rendez-vous du donner et du recevoir, pour reprendre la vision du poète président sénégalais Léopold Sédar Senghor. Donc, il va faire beaucoup de choses et sera aidé par Pascale Boucaud, longtemps sa directrice, qui fut doyenne de la faculté de droit, mais aussi d'un ami cher. Et puis à côté, il y a le recteur qui s'appelle Monseigneur Gérard Defoy, qui décida d'ouvrir. Le fait d'appartenir à un peuple sans État m'a sans doute rendu sensible aux peuples qui n'ont pas de cadre juridique, c'est-à-dire les peuples privés d'État. En travaillant cette question, j'ai découvert l'existence d'environ 7500 minorités dans le monde, pour seulement 195 États reconnus. C'est dire les injustices qui ont été faites à tous ces peuples qui n'ont pas pu, pour moult raisons, bénéficier d'une expression juridique et politique capable de les protéger. Voilà, je voulais vous lire un passage de ce grand livre inédit, pour moi inédit, même si avec les églises d'Orient et Saint Thomas et d'autres, j'avais découvert des choses. Pour l'amour d'une mère, de Joseph Yacoub et Pascal Magaisian, itinéraire au pluriel, d'un assyro-chaldéen qui vient de paraître aux éditions du Cerf. Et je termine là-dessus.